da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela de Doglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu scriitorul francez Éric Renard. Născut în 1965, Éric Renard a debutat în literatură în 1998 cu romanul Demi Soleil. Apoi a publicat alte 8 romane, dar și proză scurtă, piese de teatru, texte despre artă. A primit numeroase premii literare prestigioase, mai ales pentru romanul din 2014, L'amour et les forêts, Prix Renaudot, France Télévisions și Culture Télérama, roman ecranizat ulterior. Sara Suzanne și scriitorul a fost pe lista scurtă a premiului Goncourt și este un roman cu o formă îndrăzneață. Sara, o femeie inteligentă și sensibilă, cititoare pasionată pe care soțul ei o aduce în pragul nebuniei, caută o idee salvatoare și găsește ieșirea ideală dintr-o realitate care i-a devenit insuportabilă. Ficțiunea. Întâlnirea ei cu scriitorul, căruia îi propune să-i transforme povestea de viață într-un roman, se dovedește a fi mai mult decât un proiect artistic interesant. Sara se transformă în Suzanne, personajul inspirat de ea, și în același timp descoperă o Suzanne care o fascinează. Jocul între realitate și literatură trece granițele în ambele sensuri într-un du-te-vino care se accelerează progresiv, cuprinzându-i în vârtejul său și pe cititorii acestui roman. Despre cum a scris acest roman ne-a vorbit Éric Renard.
En 2017, à l'apparition de l'un de mes livres en France, j'ai reçu un message sur Facebook d'une femme me demandant mon adresse mail. Alors, je lui ai demandé pour quelle raison elle souhaitait mon adresse mail et elle m'a répondu « Je vis une histoire douloureuse et silencieuse qui me donne le sentiment d'être dans l'un de vos livres et je voulais vous la raconter. » Alors, piqué par la curiosité et flatté par ce message, je lui ai donné mon adresse mail et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail de 2 pages où cette femme me racontait la situation dans laquelle elle se trouvait. C'est-à-dire que ce n'était pas un récit a posteriori de quelque chose qui lui était arrivé, elle était en train de le vivre. Et en effet, c'était extrêmement douloureux ce qu'elle vivait, ce qu'elle traversait. Et instantanément, en lisant ces 2 pages, je me suis senti concerné par cette femme. C'est comme si j'étais devenu elle, instantanément. Je comprenais de l'intérieur ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait voulu faire, ce qu'elle cherchait. Et j'étais bouleversé par sa situation. Alors je me suis dit que certainement ce serait un livre un jour. Je lui ai répondu en lui souhaitant du courage et en lui disant que j'étais en train d'écrire un livre. Elle ne m'a pas répondu, mais j'ai été fécondé par ces 2 pages, ce mail qu'elle m'avait envoyé. J'ai été fécondé, donc un livre s'est mis à pousser en moi, à prendre corps et forme pendant ces années. Et au moment de me mettre à l'écrire, je lui ai envoyé un nouveau message pour la prévenir et vérifier qu'elle était toujours d'accord pour que de ce mail de 2 pages qu'elle m'avait envoyé, je puisse tirer la matière d'un roman, et elle m'a dit oui. Alors, c'est pas du tout un livre sur la maladie, puisque quand le livre commence, mon héroïne est en rémission, sa maladie est terminée, mais comme elle aurait pu en mourir et même aurait dû en mourir de l'avis des médecins et que c'est une sorte de miraculé, eh bien, elle a un rapport renouvelé à la vie. C'est-à-dire qu'elle vit une forme de renaissance, elle veut changer de vie, elle veut repartir de zéro, changer de métier. Elle est dans une forme de voracité existentielle. Elle rêve depuis toujours d'écrire, et donc elle abandonne son métier pour se consacrer à l'écriture, et elle aimerait que son mari soit au rendez-vous de cette renaissance, soit au rendez-vous de cette intensité existentielle qu'elle appelle de ses voeux. Elle est dans une gourmandise effrénée vis-à-vis de la vie et de ce nouveau territoire qui s'ouvre à elle, et elle aimerait que ce nouveau territoire ce soit avec son mari qu'elle s'y engage et s'y avance comme ça avec allégresse. Or non, lui, il est dans une forme de routine, de vie tranquille, de paresse sensorielle, existentielle, et ça ne convient pas à mon héroïne. Ça ne lui convient pas. Par ailleurs, en effet, elle se rend compte complètement par hasard que son mari possède 75% de leur maison et elle seulement 25%. Et donc, elle demande à son mari d'évoluer, de changer, d'être davantage avec elle, d'avoir plus envie, que c'est le cas là, de vivre leur vie tous les deux, de vivre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles sensations, d'avoir des projets ensemble et pas l'un à côté de l'autre. Et puis elle lui demande de changer ce contrat chez le notaire. Et son mari, il n'est pas méchant, c'est un homme plutôt agréable, pas contrariant, conciliant, et il lui dit oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison, mais rien ne se passe. Alors, sur les conseils d'une amie, eh bien, mon héroïne décide de lui administrer une sorte d'électrochoc à son mari pour le faire changer, pour qu'il comprenne qu'il peut la perdre, vraiment. C'est pas parce qu'ils vivent depuis 22 ans que telle lui est acquise à jamais. Il faut qu'il fasse attention, il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même. Et puis aussi qu'il voit un peu l'effet que ça lui fait de vivre sans elle. En fait, elle veut lui faire peur. Alors elle loue une petite maison pour 2 mois et elle lui annonce qu'elle va partir pour 2 mois. Et là, c'est le début des ennuis. Parce que son mari prend extrêmement mal, une espèce je sais pas, de sursaut d'orgueil mal placé d'homme qui ne supporte pas que sa femme lui fasse la leçon, prenne les devants, prenne des options sur leur avenir sans lui en parler, alors que elle fait ça pour eux deux en réalité et pour sauver leur amour dont elle sent bien que cet amour est en train de s'étioler. Et qu'on est dans une forme d'hypocrisie, de mariage bourgeois, confortable, sans histoire. Alors ça peut convenir à plein de gens, ça. Dans la mesure où les deux sont d'accord avec ça, dans une vie, petite vie tranquille et paisible, où il n'y a plus d'intensité, mais il y a la paix, il y a l'entente intellectuelle. C'est le cas de beaucoup de mariages, et très bien. Sauf que ça ne satisfait plus. On aurait une qui a retrouvé au sortir de la maladie une forme d'idéalisme et d'esprit adolescent et d'intransigeance adolescente où elle veut vraiment vivre dans l'intensité et un renouveau. Voilà. Et donc, du jour où elle annonce à son mari qu'elle va partir pour 2 mois, son mari ne lui donnera plus jamais, jamais de nouvelles. Il rompt avec elle définitivement en une seconde. Et ça, c'est terrifiant. Je pense que jamais j'aurais osé imaginer, comme écrivain, une telle situation dans un roman. Là, ce qui est intéressant dans le travail, c'est de partir d'un fait réel. Donc, je n'ai pas à m'interroger sur la véracité de ce que j'écris, puisque la chose s'est produite chez cette lectrice. Simplement, après, voilà, il faut la mettre en scène avec justesse et avec vérité, en étant vraiment à l'intérieur de la situation et dans l'esprit, le corps, les sensations et les pensées de mon héroïne. Mais il y a des hommes comme ça, où soudain la femme se rebiffe, se révolte, même gentiment, même doucement, même amoureusement, puisque cette maison qu'elle loue pour 2 mois, elle le fait vraiment pour que son mari la supplie de ne pas y aller. C'est ça l'histoire, en fait. Je pense qu'elle imaginait que son mari ne la laisserait pas partir dans cette maison, mais non seulement il la laisse partir dans cette maison lugubre, mais il l'empêche de revenir chez elle.
On dirait très mauvaise stratégie de la part de cette héroïne, malheureusement. Mais
Sauf
sauf
Si l'on considère, sauf si l'on considère qu'il est parfois
préférable.
nécessaire dans la vie, lorsqu'on ne sait plus comment se sortir d'une situation, et c'est le cas là, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus comment prendre son mari pour qu'il accède à ses voeux, comme une espèce de sable mouvant, en fait. Et donc, il est parfois nécessaire de provoquer une catastrophe salvatrice. Il est parfois nécessaire de déclencher la catastrophe qui vous sauvera. Et donc là, elle déclenche une catastrophe, mais c'est par cette catastrophe-là qu'elle va se déplacer. Et s'étant déplacée, qu'elle pourra refaire sa vie et refleurir, alors qu'elle était dans le fond en train de dépérir. Donc en effet, mon livre met en scène une sorte de catastrophe qu'une femme déclenche toute seule, mais cette catastrophe va la sauver.
Il y a deux noms de femmes. Il y a Sarah Et il y a Suzanne. Alors là, peut-être on arrive un peu à la
Voilà.
construction du roman.
C'est pour ça que depuis le début, en répondant à vos questions, je dis les, mon héroïne, alors qu'elles sont deux, parce que je ne savais pas si je devais parler de Sarah ou de Suzanne, ou des deux. L'histoire, c'est que j'étais prêt à commencer mon livre en janvier 21, après la sortie de mon roman Comédie française à l'automne 2020. Et j'avais tout en tête. J'avais une grande partie de l'histoire, mon héroïne, la situation, son mari, la petite maison lugubre, le fait qu'elle puisse pas plus rentrer chez elle, etc. Mais il me manquait la flamme. Il me manquait justement cette intensité du désir qu'appellent de ses voeux Sarah et Suzanne dans mon livre, et ça me perturbait. Et j'ai passé de longs mois comme ça à réfléchir et à perdre confiance et à me sentir mal dans l'angoisse de l'impuissance créatrice et littéraire. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à écrire ce livre, enfin pourquoi je n'arrivais pas à me mettre au travail même. Et là, il se serait agi de faire un roman simple, linéaire, limpide, avec une héroïne, voilà, vivant les événements les uns après les autres, etc. Il y a quelque chose qui m'ennuyait prodigieusement dans ce projet, alors que l'histoire me passionnait. Mais c'est que moi, raconter une histoire pour raconter une histoire, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Si c'est pas transcendé par des enjeux esthétiques, formels, qui me permettent de procurer à mes lecteurs des expériences un peu novatrices, un peu déstabilisantes, un peu singulières, j'arrive pas à écrire. Voilà. J'aime élaborer des formes. Alors, je raconte les histoires, je suis romancier, je suis pas un artiste expérimental ni conceptuel, mais non, voilà, donc j'écris des romans, mais en élaborant des formes. Et là, l'idée m'est venue fin août 21, donc presque 6 mois, après 6 mois de marasme, d'un livre avec deux héroïnes, deux femmes. La forme, c'est qu'un écrivain raconte à une femme dont il va s'inspirer de la vie pour écrire son prochain roman. Il lui raconte le roman avant de l'écrire. Cette femme, c'est Sarah, c'est la modèle. Et l'héroïne de fiction du livre qu'il va écrire s'appellera Suzanne. Donc Suzanne dérive de Sarah. L'écrivain raconte à Sarah ce que va faire Suzanne. Et Sarah lui répond. On a donc un espace romanesque dans lequel le lecteur voit évoluer en permanence deux femmes, Sarah et Suzanne, qui vivent pratiquement la même chose, toujours, au même moment, dans deux endroits différents. Puisque comme ma lectrice, la seule condition qu'elle m'avait donnée pour m'autoriser à écrire un livre à partir de son histoire était qu'on ne puisse pas la reconnaître, dans le livre, c'est pareil. Donc, Suzanne n'habite pas dans la même ville que Sarah. Sarah habite à la campagne, Suzanne habite en ville. Elles ne font pas le même métier. Sarah était architecte, elle est devenue sculpteur, sculpteuse, sculptrice. Et Suzanne était généalogiste et elle est devenue écrivaine. Et je me suis dit que ce serait extraordinaire pour mon lecteur, mes lectrices, de lire un livre qui raconterait une histoire par l'entremise de deux héroïnes qui se superposent la plupart du temps. On les voit en transparence l'une de l'autre. L'une commence une phrase, l'autre la finit. L'une commence une action, l'autre la termine dans deux endroits différents. Mais par moment, lorsque l'écrivain fait intervenir une variation dans l'histoire que lui a racontée Sarah, eh bien, on voit la trajectoire les trajectoires de Sarah et de Suzanne s'écarter sensiblement et elles font à ce moment-là deux choses différentes. Je me suis dit que voilà, créerait du trouble chez mon lecteur, ça lui communiquerait des sensations intéressantes. Et puis, c'est aussi une façon, à partir d'une seule et même histoire, d'un seul et même témoignage, d'en tirer deux histoires. Puisque, à un moment du livre, dans le dernier tiers, disons, les trajectoires de Sarah et de Suzanne se séparent radicalement, et ça, c'était le projet que j'avais dès le début. Lorsque l'idée de cette forme m'est venue, je me suis dit que, bien évidemment, à partir de cette idée, il fallait qu'à la fin, il y ait deux fins. Une fin dans la réalité, dite dans la réalité, avec Sarah, et puis une fin de pure fiction, avec Suzanne. Donc on a vraiment deux livres en un, avec deux héroïnes qui sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait différentes. Sarah, la modèle, et Suzanne, l'héroïne de fiction.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler de cette façon dans d'autres romans?
Oui, je dirais que la figure du double, pente,
Voire
ou
quadruple parfois, peut-être.
voire quadré, voilà. Donc, mon roman Cendrillon, par exemple, qui est un énorme livre, qui est le livre qui m'a révélé et rendu un peu connu en France, c'est un énorme livre qui fait 1 200 000 signes, 600 pages, qui est une sorte d'autobiographie romancée ou d'autofiction fictionnelle, je ne sais pas comment dire, où, sans que ce soit jamais dit explicitement dans le livre, mais le lecteur le comprend peu à peu. Le livre met en scène quatre personnes, quatre hommes, qui sont chacun une modalité différente d'un même individu, comme une hypothèse. C'est-à-dire qu'à partir de, disons, de la 18e année d'un personnage commun aux quatre, qui est leur socle, leur tige, comme la tige d'un, je sais pas, d'un arbuste ou d'un rosier. À partir de là, de la 18e année, en fonction des décisions qu'ils prennent, on a quatre hommes qui vivent quatre vies différentes. Et dans la vie, c'est ça, en fait. À 18 ans, en fonction des études qu'on choisit de faire, parce que parfois on hésite, ce qui était mon cas, eh bien, on peut se retrouver dans quatre vies complètement différentes. Et j'avais envie de mettre en scène quatre vies complètement différentes d'un même individu, d'un même homme. En l'occurrence, moi. Et donc, en quatrième de couverture du livre, il y a « Que serais-je devenu si je n'avais pas rencontré Margot à 23 ans ?» Et en effet, je raconte ce qu'auraient pu être mes vies si je n'avais pas rencontré la femme de ma vie à 23 ans. Donc, dans ce livre, il y a Eric Reinhardt, écrivain, vivant à Paris, marié, deux enfants. Et puis, on a trois autres personnages qui sont trois autres modalités de ma personne. Si je n'avais pas pris telle ou telle décision entre 18 et 23 ans. Donc, je suis assez familier de ces jeux littéraires. Voilà, on ne va pas développer, mais dans La Chambre des époux, de la même façon, on a voilà, motifs qui se répètent avec personnages réels qui se déclinent en personnages de fiction. Deux fois dans le livre, donc avec comme ça, presque un fonctionnement en poupée russe.
Pour finir avec Sarah Suzanne et l'écrivain, et peut-être après on peut passer un peu à vos autres
Ouais.
activités de romancier et aussi d'éditeur et de dramaturge. Vous touchez à beaucoup de choses. Quelle a été la réception de ce roman d'après vous? Est-ce que vous êtes content de ce qu'on a écrit, ce qu'on a pensé de Sarah Suzanne et l'écrivain?
Alors, le livre a été extrêmement bien reçu. La presse en France a été quasiment unanime, très élogieuse, voire dithyrambique. Donc peut-être que je n'avais jamais eu. J'ai toujours eu les faveurs de la critique en France, mais peut-être jamais à ce point. Et puis voilà, il y a beaucoup de critiques littéraires soulignaient je sais pas, le côté tour de force de cette construction. Parce que je crois que c'est un livre aussi addictif. Moi, j'ai envie que les lecteurs, j'aime m'amuser avec la forme, j'aime être expérimental, j'aime procurer à mes lecteurs des expériences nouvelles, mais sans que cela ralentisse la lecture. Moi, j'ai aussi envie que les lecteurs y tournent les pages et qu'ils soient avides de connaître la fin du roman. Donc, j'ai envie de tout tenir en même temps. Parce que le danger aussi d'une démarche trop expérimentale, c'est d'éloigner le lecteur du plaisir de la lecture. Pour être juste dans une sorte de délectation cérébrale et intellectuelle de ce que fait l'artiste. Mais moi, j'ai aussi envie que mes lecteurs, ils dévorent mes livres. Donc, voilà, la critique soulignait cela, le caractère un peu novateur du texte et aussi le fait qu'il procurait du plaisir. J'ai été aussi prise à partie et attaquée assez violemment par, mais ça, j'ai l'habitude depuis des années, par des hommes. des hommes très masculinistes, virilistes, conservateurs, de droite, qui ne supportent pas ce que je représente, c'est-à-dire mon féminisme, puisque je me revendique comme un écrivain et un homme féministe. Mes livres sont féministes, pas tous, mais en tout cas L'amour et les forêts, celui-là, sont des livres qui sont clairement féministes et qui défendent la cause des femmes et des problématiques auxquelles elles sont confrontées, comme la théorie du pot de yaourt à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Donc sur la question économique, la façon, les injustices qui peuvent avoir lieu dans la vie conjugale et maritale à cause du patriarcat qui fait que l'homme paye rembourse le crédit de la maison et la femme consacre ses revenus à la vie quotidienne et domestique en achetant à manger, en payant l'électricité, les vêtements des enfants, etc. Et lorsqu'il y a un divorce, le mari repart avec la maison puisque c'est lui qui a payé le crédit et les femmes avec les pots de yaourt. Donc ça, la théorie du pot de yaourt a été décrite par une féministe qui s'appelle Titu Lecoq en France. Voilà, donc mon livre s'intéresse à ces questions. Et donc, je suis devenu la cible voilà, de ces hommes qui voilà, combattent le féminisme et les personnes qui sont les alliés des féministes et qui sont très conservateurs et qui voilà, tiennent au maintien du patriarcat, etc.
Ça vous surprend qu'il y ait encore aujourd'hui des hommes qui s'accrochent au patriarcat?
Ben là, ils reviennent en force. C'est vrai que là, avec ces dernières années, avec ce qui s'est passé de révolutionnaire et d'extraordinaire, et qui est vraiment un progrès majeur et qu'il faut acclamer, donc MeToo. Bon, vraiment, ça, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à nos sociétés ces dernières années. Et donc, ils étaient un peu réduits au silence, ces hommes. Mais là, on assiste à une espèce d'inversion et de retour de flamme, de retour de bâton. Voilà, on voit avec l'élection de Trump, avec et puis ici ou là, enfin, la montée des extrêmes droites, les virilistes et les masculinistes, et ceux qui défendent les modèles traditionnels, patriarcaux, avec la femme à sa place, l'homme à sa place, donc l'homme défendant et protégeant la femme, cette pauvre petite chose, etc. Donc voilà, avec tout ce que ça comprend bien évidemment en termes de domination masculine. Voilà, j'ai l'impression que ça revient un peu en force. Et donc voilà, il y a eu quelques articles comme ça, extraordinairement moqueurs, railleurs, agressif, violent et méchant à mon encontre, exactement comme si j'étais une femme, je sais pas, avec une espèce de condescendance, certains parlant de mes cheveux, de ma chevelure, tout ça, enfin, vraiment des choses assez effroyables. Et puis par ailleurs, j'étais finaliste du prix Goncourt, que j'ai failli avoir, puisqu'il y a eu 14 tours de scrutin. Et au 14e tour de scrutin, c'est la double voix du président qui a fait pencher le verdict en faveur de l'autre livre. Donc voilà, je n'ai pas à me plaindre de l'accueil qui a été réservé à mon livre qui a eu du succès et donc qui a failli avoir le Goncourt.
Alors, je voulais qu'on termine sur votre parcours un peu et certains livres qui peut-être vous ont procuré beaucoup de plaisir, parce que déjà, il y a certains de vos romans qui ont été adaptés pour le cinéma ou pour le théâtre, mais aussi vous touchez un peu à tout. Vous faites des lectures spectacles, vous avez fait un film, vous faites des livres d'art, vous avez fait des livres sur la mode, vous avez une collaboration avec Angelin Préljocage. Comment vous choisissez en fait ce genre de projet?
Il y a plusieurs choses. C'est que mon métier, aujourd'hui je vis de mes romans, mais mon métier initialement c'était éditeur de livres d'art. Donc je conçois assure la direction artistique de livres d'art, que je mets en forme et j'en ai vécu pendant de nombreuses années, mais je continue à en faire parce que ça m'intéresse et que j'adore ce métier, j'adore cette pratique. Aujourd'hui, je suis indépendant en freelance, donc je fais ces livres pour différentes maisons d'édition. Donc voilà, ça m'a amené à aborder différents sujets et à faire des livres autour de différents artistes, thématiques, etc. Après, ce qui peut me caractériser moi en tant qu'écrivain, c'est l'intérêt que je porte extrêmement fort aux autres disciplines artistiques. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont pour seule référence des livres, des œuvres littéraires, qui passent leur temps à lire. Moi aussi, je lis énormément. Mais j'aime énormément aller au théâtre, je m'intéresse beaucoup au spectacle vivant, à la chorégraphie, à l'architecture. Et c'est vrai que je me nourris, et pendant longtemps, c'était vraiment une source d'inspiration et presque d'influence majeure, tout autant que la littérature. Je me nourrissais des spectacles que je voyais et j'essayais par mes livres. J'ai essayé par mes livres d'atteindre au type d'effet qu'avaient sur moi certains spectacles de danse que je voyais. L'architecture, pareil. Il y a plusieurs livres que j'ai écrits dont la forme a été inspirée par des bâtiments ou l'œuvre d'architecte. C'est vrai que ça me parle. Je me décris souvent comme un écrivain plasticien, en élaborant des formes. Et c'est vrai que tout ce travail que j'ai fait avec mes livres, eh bien, était nourri beaucoup, beaucoup par les artistes contemporains, par la création contemporaine, bien plus que par les écrivains d'aujourd'hui. Voilà. À certains égards, je me sens plus proche de certains chorégraphes, de certains architectes que de la plupart des écrivains contemporains, même s'il y en a beaucoup que j'aime et dont j'admire le travail. Mais il y a en termes d'inspiration et de stimulation, comme si, en fait, les artistes qui me donnent le plus envie d'essayer de les égaler, ce sont des artistes d'autres disciplines artistiques que la littérature. Un artiste comme Romeo Castellucci, par exemple, que je vénère, et dont je suis le travail depuis 1998 en voyant absolument tous ses spectacles, qui est vraiment un génie. C'est une œuvre, l'œuvre de Romeo Castellucci, qui m'inspire, me nourrit et m'apporte énormément de choses dans l'élaboration de mes propres textes. C'est la raison pour laquelle j'ai des amitiés dans ce milieu, puisque je le fréquente beaucoup, plus que le milieu littéraire. J'ai des amis qui ne sont pas artistes, bien évidemment, mais les amis artistes que j'ai sont, pour la plupart, en dehors du milieu littéraire. Ce sont des metteurs en scène de théâtre, chorégraphes, etc. Et donc, ces amitiés m'ont conduit à des collaborations. Donc, c'est vrai que j'ai écrit le livret d'un opéra pour l'Opéra Bastille avec Fia Ménard, qui est une grande metteuse en scène de théâtre et performeuse que j'adore. J'ai collaboré avec Angelin Préjocage, le chorégraphe. J'ai fait un film pour la troisième scène de l'Opéra de Paris avec Marie-Agnès Gilot, la danseuse étoile, immense danseuse étoile et amie, que j'ai rencontrée grâce à Angelin Préjocage, puisque j'avais écrit le livret d'un ballet pour Angelin, pour l'Opéra Bastille, et Marie-Agnès Gilot dansait. Voilà, donc c'est mon intérêt pour les autres disciplines artistiques qui m'ont amené à collaborer avec d'autres artistes.
L-am ascultat pe scriitorul francez Eric Renard. Sara Suzan și scriitorul a apărut la editura Univers în colecția Romanul secolului 21. Traducerea Ana Veronica Mircea. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!